ce verset qui dit « Revenez à l'Éternel ». On s'est fait une idée de Dieu. Quand j'étais plus jeune, j'appelais ça un Dieu de poche. Et on l'a coloré, on l'a verni, on l'a diminué. Revenons à l'Éternel, revenons à Dieu. Et essayons de, comme il nous aidera, hein, de voir qui il est. Et à ce propos, j'avais aussi un commentaire qui m'a touchée cette semaine. C'est de Jack Efford, qui disait « L'obéissance du chrétien grandit si elle vient d'un cœur qui est pour Dieu. » Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un rite religieux, mais elle grandit si on a un cœur pour Dieu. C'est-à-dire, l'obéissance peut devenir quelque chose de dur, quelque chose de désagréable, si elle ne vient pas d'un cœur qui est tourné vers Dieu. Et c'est très très important. Parce qu'on peut devenir très vite religieux, et les évangéliques ne sont pas à l'abri de la religiosité. Mais si on a un cœur pour Dieu, l'obéissance va découler automatiquement. Et c'était ça l'échec de Saül. Son cœur n'était pas pour Dieu. Ce pauvre Saül, et justement, monsieur Nicole, qui enseigne aussi à Vaux-sur-Seine, me disait, Saül est un personnage très ambigu. Il y a tellement de bons côtés, mais son cœur n'était pas pour Dieu. David a tellement de mauvais côtés parfois, et on va le voir dans notre étude de David, ça fait mal, mais il avait un cœur profondément. Désirer lui obéir, ça marche ensemble. Avoir un cœur pour Dieu, l'aimer et désirer lui obéir. Et comme preuve, il cite le psaume 23 que tout le monde connaît. Et dit, il pose cette question, quelles sont les choses qui empêchent notre croissance dans la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Et en connaissant la parole de Dieu, on a beaucoup plus de chances, toutes les chances, de mieux connaître Dieu. Et je crois que c'est très très important. Dans Éphésiens 6... L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Hébreux 4:12 dit ceci, un verset que j'ai souvent cité, que j'ai souvent entendu, mais il m'a beaucoup parlé cette semaine. Il dit, la parole de Dieu est vivante. Alors on le cite comme ça, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. La parole de Dieu est efficace. Plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, pour être très, très clair pour moi, mais ce n'est pas grave, c'est peut-être clair pour certains d'entre vous. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Et cette semaine, Dieu nous a parlé, Julie et moi, on était en prière, quand on a reçu quelqu'un qui nous a raconté une expérience qui m'a énormément frappée. Et moi, je parle de miracle parce que ça m'a secoué, ça m'a fait réfléchir. Quelqu'un donc de notre église qui est venu raconter comment elle avait décidé de jeûner. Amen, magnifique. Et elle s'est placée devant la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si j'ai tous les détails. Elle m'a donné l'autorisation, mais je ne donnerai pas son nom, ce n'est pas la peine. C'est pas... Le but, c'est son expérience qui est intéressante. Merci. Et... Elle a expliqué qu'elle s'est mise en prière, apparemment, dans son temps de jeûne. Et le Seigneur lui a fait sentir dans son cœur. Non, ce n'est pas ça que j'attends de toi. Il y a d'autres choses à voir. Quoi, je n'ai prié, c'est spirituel quand même. Hein. Et du coup, elle a eu la bonne idée de s'en référer à la parole de Dieu. Et pas à sa tête, pas à ses pensées. Alors, elle est allée voir le texte que tout le monde connaît aussi, sur le vrai jeûne. Délie les liens de la méchanceté, etc., etc. Le vrai jeûne. Et elle a dit, mais Seigneur, alors ça veut dire que faut que je traite ça d'abord, avant de jeûner. Ouais. Et là, ça m'a frappée. Je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui a du caractère. Comment elle s'est laissée convaincre? Simplement par ce verset? Ce n'était pas son idée de départ. Et elle pouvait se sentir très justifiée, hein, de jeûner quand même. C'est beau. Et je me suis dit, mais alors Seigneur, c'est tellement vrai ce verset. Je ne sais pas pourquoi ça m'a touchée maintenant, parce que je le sais, je l'enseigne. Mais ça m'a touchée de le voir sous mes yeux, de dire quelqu'un qui a du caractère, qui, dans le jeûne, et elle a arrêté son jeûne. Seigneur, je vais d'abord traiter ce que tu me demandes. Alors je ne dis pas ça pour faire enfler ses chevilles. Elle le sait, je lui ai demandé la permission, mais franchement, combien de fois ça nous est arrivé cette année? On a pu se placer devant le Seigneur avec nos idées, nos pensées, nos façons de voir, nos façons de faire. Et il a pu nous dire non. Ça, c'est très désagréable déjà. Ce n'est pas politiquement correct. On aimerait un Dieu qui nous caresse dans le sens du poil. Tu sais bien. Well done, hein? Mais non. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée, et elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Combien de fois cette année, je me suis posé la question à moi-même, alors là, n'allez pas imaginer que je vous parle du haut de la chair, je suis contente d'ailleurs qu'elle ne soit pas là-haut, mais là je m'adresse à nous tous, à moi d'abord. Combien de fois cette année est-ce qu'on a lu la parole de Dieu ? Et qu'elle s'est comportée envers nous comme le juge des sentiments et des pensées de notre cœur. C'est ça, être chrétien. Et comme faisait remarquer le fils de John Bevere, que je vous conseille d'écouter, d'abord j'étais très contente de voir qu'ils ont élevé leur fils vraiment dans les voies de Dieu, ça m'a fait énormément plaisir, parce que je l'ai écouté depuis 95-96, donc vous voyez, c'est vieux. Et il dit... Le mot chrétien est utilisé, redis-moi les chiffres, 3 fois, et le mot saint, 60. Alors évidemment, dans notre société, le mot saint, il est plus souvent utilisé comme injure. Ça, ou bien enfant de cœur, ou voilà, on a un certain nombre d'injures religieuses comme ça dans le pays, encore pire au Québec d'ailleurs. Et 60 fois, saint, ça veut dire mis à part. Pour Dieu et consacré à. Est-ce qu'on est conscient qu'on n'est pas des chrétiens ? Chrétien, c'était une injure. En 44, on a commencé à appeler les chrétiens chrétiens. C'était une façon de dire des petits Christ. Petits Christ. Bon, c'est comme si on vous traitait aujourd'hui de petits Macron. Ce serait une injure épouvantable. Non, je plaisante. Donc, c'est pas ça l'important d'être chrétien, mais c'est d'être saint. Alors, attention, là aussi. C'est pas être parfait. Être saint, c'est être mis à part d'abord. Et c'est ce pasteur d'Ouganda qui expliquait très bien que quand on a donné notre vie à Jésus, on est marqué. Il y a une marque sur nous. C'est pas l'étoile jaune, mais presque. Dans le monde spirituel, on est marqué. On est mis à part. Donc on va pas être comme les autres. Oh, ça, c'est pas un discours inclusif. Aïe, 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 aïe. Et non. Ce n'est pas politiquement correct. La différence n'est pas politiquement correcte. On voudrait tout réunifier, tout niveler. Et ça me choque par moments, parce qu'on veut ça, puis d'un autre sens, quand quelqu'un meurt, on le dit seulement quand il est mort en général, on dit « Ah, c'était un homme de conviction !» Bizarre, non. C'est les contradictions de l'homme. Mais ça, c'est mis à part. Mis à part, ça veut dire qu'on ne va pas être comme les autres. Et que Jésus nous dit, vous serez dans le monde. Oui, mais pas du monde. Et puis le deuxième sens de saint, c'est consacré à Dieu. Ça veut dire que Dieu va être ma priorité. Et ça, c'est parfois difficile. Surtout quand il nous demande des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et j'ai apprécié cette sœur qui a eu le courage de nous raconter son expérience, de dire, voilà, maintenant j'ai tel et tel point à traiter dans ma vie. Et je me dis, mais de quand est-ce que Dieu m'a dit la même chose en lisant la Bible? Parce que quand je dis et je répète, lisez la Bible. Lisez-la, imprégnez-vous de la vie de Jésus. Lisons la Bible ensemble, etc. Bien sûr, mais c'est pas tout. C'est, est-ce que je me laisse interpeller par ce que je lis? Est-ce que je me laisse gronder, entre guillemets? Est-ce que j'accepte que ma maman, Dieu me dise non? Non, tu arrêtes ton jeûne là, traite d'abord ça. Si tu veux me plaire, tu veux me faire plaisir, tu veux réjouir mon cœur. Wow. Lire la Bible comme ça. Quand est-ce qu'on a lu la Bible comme ça pour la dernière fois? Alors, bien sûr, je suis sûre que cette année, on l'a fait tous, à un moment ou à l'autre. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'on devrait faire ça. Chaque fois que je lis la Bible, me laisser interpeller, dire Seigneur, je suis saint, consacré à, mis à part. Et je veux me laisser interpeller par ta parole. Et on vit dans une société qui va complètement dans l'autre sens. Il faut tout accepter, il faut tout niveler. Et forcément, ça ne va pas nous aider. Mais on est différent. Et évidemment, ça choque. On a du mal à accepter l'idée d'être différent. Mais la Bible nous le dit clairement. Elle nous dit d'être rempli d'amour, d'aimer notre prochain, mais de ne pas hésiter à être consacré à Dieu. Alors, on avait parlé aussi de... On va peut-être quand même tout de suite lire Muret. À ce propos, justement, je suis tombée sur ce vieux bouquin. Et alors là, je vais vous choquer. Il n'a rien de moderne. Il n'a rien de moderne. Pour vous dire, je vais vous donner les dates, c'est effrayant. Il a été écrit en jusqu'à septembre 1894. Bon. Et il dit des choses qui montrent que le cœur de l'homme n'a pas changé. On se retrouve hein, dans ce qu'il dit. Quand il dit, il a écrit ce livre pour mieux répondre aux besoins de l'Église de Christ dans son ensemble. De quoi se plaint-on en général de nos jours? Des cœurs partagés, mal affermis, instables, incapables de progresser, combien même retombent peu à peu dans la mondanité ou dans l'indifférence. Comment y remédier? Comment infuser à la vie chrétienne une santé et une vigueur telles qu'elles puissent résister à tout? Voyez, et c'était en Afrique du Sud, il y a plus de 100 ans. Donc, ce n'est pas une cause de réjouissance, mais bon, c'est comme ça. Et il dit quelque chose de très intéressant, justement sur ce verset. La parole de Dieu est vivante et efficace. Si ce n'est pas toujours apparent, c'est qu'elle est une semence. Tout dépend de la façon dont on va l'accueillir. Et ça, ça m'a frappée aussi. Je me dis, si cette personne avait dit « Ok, le vrai jeûne, c'est ça, amen, c'est bon », ça n'aurait donné aucun fruit dans sa vie. Rien. Quand on ne la reçoit que dans l'intelligence, elle ne peut pas y germer. Revenons à la parole de Dieu, mais pas seulement avec notre intelligence. C'est sûr, si je lis la parole de Dieu uniquement avec mon intelligence, je ne vais pas trouver les mêmes conclusions. Je vais garder que certains passages. Et comme ce pasteur qui avait conseillé à quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une histoire qu'on racontait dans mon église, chaque fois que vous trouvez un verset qui ne vous plaît pas, vous arrachez la page. Évidemment, au bout d'un an, il n'y avait plus rien. Oui, oui. Tout dépend de la façon dont elle est accueillie. Elle est destinée au cœur et à la volonté. Il faut la recevoir avec docilité et soumission. Il faut la mettre en pratique, la vivre. Alors, elle manifeste sa puissance vivifiante. Ah oui, les caractères imprimés sur ma page, ils n'ont pas de puissance, sauf si je les reçois et que je les mets en pratique. Alors là, ils ont une puissance extraordinaire. Ce n'est pas à nous de la rendre vivante. Croyons seulement à son pouvoir vivifiant. Soyons désireux de subir son action et sa puissance de vie se déploiera en nous. Et puis, il commente la partie suivante hein, où elle juge... Elle sépare l'âme et l'esprit, etc. Ça, je pense qu'on en a déjà souvent parlé. Le péché est venu tout bouleverser, mettant l'esprit sous la domination de l'âme. Et là, c'est moche. Et je me souviens, quand on avait fait le camp avec Colin Urquhart, où il avait pris les chaises, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas, vous vous en souvenez certainement, et il avait mis la chaise de l'esprit sous celle de l'âme. Il a mis les trois chaises, le corps, l'âme et l'esprit. Et puis, il avait mis l'esprit tout en bas, le corps et l'âme, dans l'autre sens. Il dit, malheureusement, quand on marche comme ça, la vie chrétienne, elle n'est pas marrante. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais moi, je dis, elle n'est pas marrante. Parce qu'elle est conduite par nos pensées, nos émotions, nos sentiments, etc. Et on va vivre vraiment comme ça, et c'est normal. Alors bien sûr, on a accepté le salut en Jésus-Christ, ça ne remet pas notre salut en cause. Le péché est venu tout bouleverser, c'est bien vrai. La parole de Dieu divise et sépare. Aïe, c'est pas très inclusif ça, c'est pas politiquement correct. Elle éveille l'esprit au sentiment qu'il est fait pour saisir l'invisible éternel. Elle révèle à l'âme son état de servitude. Dans le cas que je viens de citer, c'est exactement ça. Il y a des choses dont tu dois te débarrasser avant de jeûner. Ceci étant, ça ne vous empêche pas de jeûner. Hein. C'était un message qui lui était destiné. Ce n'est pas un message universel. Divin scalpel, elle pénètre partout pour dévoiler la corruption du péché et rien n'échappe à son action. Et enfin, elle juge les sentiments, on peut traduire aussi par réflexion, et les pensées du cœur, on peut traduire par intention aussi. Et c'est avec le cœur spécialement que Dieu a affaire. Il a été question de l'endurcissement du cœur, d'un cœur méchant, incrédule, d'un cœur qui s'égare. Plus loin, il sera question du cœur dans lequel est écrite la loi de Dieu, du cœur sincère, du cœur purifié, du cœur affermi par sa grâce. Voilà, je ne continuerai pas parce que si vous voulez le lire, en fait, c'est un commentaire de l'Épître aux Hébreux, qui est bien vieux, mais qui a été réédité. Je pense qu'il parle à beaucoup de cœurs. Il est simple, ce n'est pas un recueil théologique, comme le signale M. Blocher. Mais vous voyez, c'est ça que j'aime aussi chez ces théologiens de Vaux-sur-Seine, c'est qu'il y a la théologie, l'exégèse, sérieuse, parfaite, etc. Parfaite dans le sens accompli, et puis il y a le cœur. Et il ne passe pas à côté. Et ce livre peut faire du bien à un grand théologien, parce qu'il parle du cœur, même si parfois il y a des points d'exégèse qui ne lui conviennent visiblement pas. On peut accepter ça. Donc, je vais reprendre aussi ce qu'on a dit. On est attaqué par le diable, par notre chair, notre naturel, et par les pensées du monde. Juste un tout petit point que je voulais relever, quand André a dit le corps est la cible de l'ennemi, c'est aussi la cible du diable, etc. C'est surtout, non pas au niveau de la maladie, mais c'était au niveau des portes. Notre corps, c'est beaucoup, hein, nos yeux et nos oreilles. Et l'influence du monde passe par ce qu'on voit, par ce qu'on lit, par tout, etc. Et par ce qu'on entend. L'influence du monde passe par là, en général. Hein, ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on vit avec notre corps. Pour les pensées, justement, du monde, qui sont loin de celles de Dieu, le remède, c'est soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Et comment est-ce qu'on va renouveler notre pensée? En travaillant la parole de Dieu. Alors bien sûr, on peut le faire en écoutant des messages, on peut le faire en discutant entre chrétiens, etc. Mais fondamentalement, c'est en lisant la parole de Dieu comme notre sœur l'a lu. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux juger, dans le bon sens du terme, de mes sentiments et de mes pensées? L'autre problème, c'est notre naturel, notre chair. Et là aussi, il y a toutes sortes de choses pour combattre, mais je pense que la parole de Dieu va être extrêmement efficace. Et puis, le diable, on lui résiste. Et comment on lui résiste? Il est écrit. Et pour dire il est écrit, il faut connaître la parole de Dieu. Et combien de situations pour les chrétiens du monde entier depuis des siècles ont été réglées quand ils ont pu citer, quand les chrétiens, les frères et sœurs ont pu citer une parole de Dieu. Je me souviens même d'un témoignage, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé, de ces Chinois qui avaient été attaqués. C'était une Chinoise qui est rentrée à une réunion de prière un soir et qui était attaquée par un chien, quelque chose comme ça, un gros chien méchant. Et elle n'avait pas le temps de citer le verset, et malheureusement, je vous dis, je ne me souviens plus du verset, mais elle a cité les références du verset. Ça m'avait beaucoup amusée, mais son cœur était dedans. Hein. Elle se disait, je n'ai pas le temps, donc elle a cité les références du verset, et le chien s'est calmé. Combien de gens ont été protégés par la puissance de la parole de Dieu? Et pour ça, il faut la lire, il faut la travailler. Revenons à la parole de Dieu. Si on en reste à l'homme qui a vu l'ours, c'est-à-dire, oui, quelqu'un m'a dit qu'en lisant la Bible, il l'avait reçu, ta. Bien sûr, ça fait toujours du bien. Moi, ça me fait du bien. D'ailleurs, le témoignage de notre sœur m'a bouleversée. Mais allons plus loin. Et j'avais tout le temps ce verset ce matin pendant la louange. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Et c'est pas mystique, c'est pas compliqué. Je pense que le 24-7 va peut-être être une occasion aussi, mais chez nous, de se dire, vous savez, je vais faire des ennemis peut-être. Mais moi aussi, j'en regarde de temps en temps des séries. Mais oui, moi aussi je pêche. Mais, ok, mais si vous regardez bien, ça dure combien une série? 40 minutes un épisode? Entre 20 et 40 minutes. Alors on va prendre le moins, hein. Vous regardez que les courtes, les 20 minutes. Si c'est 20 minutes, je les passe, disons aussi, ça ne vous empêche pas de regarder The Crown ou je ne sais pas quoi. Si c'est 20 minutes, je peux les passer dans la journée à écouter ce que Dieu a à me dire au travers de sa parole. Je suis sûre que ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer dans ma façon de voir, dans ma façon de vivre. Ça va changer mon regard. Et le pire, c'est le regard sur les conjoints. Ça va changer mon regard sur mes enfants. Dans les deux sens. Peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas et que je devrais voir. Et des choses que je crois voir et qui ne sont pas là. Ça va changer les choses. Ça va changer mon regard sur la vie, sur mon environnement. Parce qu'elle est vivante, cette parole. À partir du moment où je l'accueille comme une semence, elle est vivante. Voilà ce que je voulais dire. C'est pour ça, pour revenir à mes moutons, ces histoires de l'Ancien Testament font partie de cette parole de Dieu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut tirer? Et justement, le texte d'aujourd'hui, ce n'est pas un texte facile, ce n'est pas un texte où on peut tirer beaucoup de choses. En tout cas, pour moi aujourd'hui, peut-être que je vous dirai autre chose dans quelques années, mais il fait partie de cette parole de Dieu qui dit que ces choses sont arrivées et nous servent d'exemple, à suivre ou à ne pas suivre, mais d'exemple. Et donc on va démarrer avec 2 Samuel. Après cela, voici ce qui arriva. Ah, alors après cela, c'est quoi? Eh bien, c'est la mort de Saül et Jonathan à la guerre contre les Philistins. David, au chapitre 1, a composé, vous l'avez au chapitre 1, un très beau chant funèbre en l'honneur des guerriers tombés aux mains de l'ennemi philistin. Il rappelle les qualités de Saul et de Jonathan, son ami. Donc ça, on en avait déjà parlé la dernière fois, donc je ne reviens pas dessus. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il pleure sur eux? Alors pour Jonathan, on comprend, hein. Jonathan lui avait sauvé la vie. Jonathan était son ami le plus proche. Jonathan avait reconnu l'onction de Dieu sur David et il avait même promis à son ami Jonathan, écoute, tu seras mon second quand je serai roi. Donc ils étaient prêts à travailler ensemble. Donc on comprend le chagrin immense de David. La question qu'on peut se poser aussi, pourquoi Jonathan a suivi son père? Loyauté, bien sûr. Et je repense toujours à ce verset épouvantable qui dit si tu ne hais pas, c'est-à-dire si tu ne mets pas en premier ton Dieu, si tu ne hais pas ton père, ta mère, etc., c'est dur. Bien sûr, il ne s'agit pas de haine, mais de mettre en premier. Et ça, c'est dur. C'est extrêmement dur. Et Jonathan, pauvre Jonathan, tout le monde l'aime, Jonathan. Il n'a pas pu. Et il est mort alors que je ne pense pas que c'était le plan de Dieu pour sa vie. Et certainement, vous allez voir dans la suite que s'il avait été à côté de David, ça aurait certainement été mieux. Parce que Joab, dis donc, on va voir, hein, incontrôlable, Joab. Enfin, pour Saül, c'est plus difficile à comprendre, hein, parce que depuis plusieurs années, David a dû fuir devant Saül et ses soldats, pendant plusieurs années, parce que Saül voulait le tuer. Donc, on pourrait penser, David est libéré. Mais en fait, j'ai beaucoup prié sur ce texte parce qu'il était compliqué. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il avait, David? Pourquoi il a pleuré pareillement sur Saül? D'accord, il reconnaissait toutes les bonnes choses de Saül. Mais je crois que David respectait l'onction divine qui avait été donnée un jour à Saül en qualité de roi. Et au-delà des événements de sa propre vie, et même s'il ne comprend pas tout ce qui lui était arrivé, il respectait non pas l'autorité de l'homme, mais l'autorité de Dieu. Il avait ce respect. Et on en parlait aussi avec André, et il m'a dit, pourquoi finalement, chaque fois que Dieu lui a donné l'occasion de se débarrasser de Saül, il ne l'a pas fait? Et Il y avait ce problème d'autorité. Il y avait ce problème d'autorité de Dieu et il lui manquait un signe de Dieu pour agir. Je crois que si Dieu lui avait dit « vas-y, il y serait allé ». Mais je pense, alors là c'est moi, hein, vous pouvez penser différemment, mais j'ai l'impression que si Dieu lui avait dit un jour « David, vas-y, ça suffit, je l'ai remis entre tes mains », mais il n'a jamais senti ça dans son cœur. Il était suffisamment sensible à la voix de Dieu pour dire « Dieu ne m'a pas donné cette liberté, Dieu ne m'a pas donné ça ». Et donc il ne l'a pas fait. Il croyait toujours, et je crois que ça c'était une qualité de David, il croyait toujours à une possible repentance. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a eu confrontation entre les deux personnes, on sent le cœur de David, ça y est, et puis derrière, pff, ça retombait. Et il a toujours cru une possible repentance de Saül. Et c'est un fait que Dieu, et comme il avait ce cœur de Dieu, David, il a vu que Dieu avait donné à Saül de multiples occasions de se repentir. Vous vous souvenez ce qu'on a vu l'année dernière, combien de fois, ça y est, il va changer, il va se repentir, il va reconnaître. Et on a toujours cet espoir, et c'est bien qu'on garde toujours cet espoir. Je crois qu'il ne faut jamais dans notre tête se dire, c'est fini, c'est glacé, cette personne va en enfer. D'ailleurs, j'aime pas entendre ça, hein, même pour des non-chrétiens. Oh, celui-là, il va aller droit en enfer. On n'en sait rien. Les choses cachées sont à l'éternel. Et croyons toujours à la possibilité d'une repentance. David en a fait autant, il a toujours cru et il n'avait pas l'autorité pour agir. C'était toujours un berger en fuite. Hein. Il avait l'onction de Dieu, mais au niveau des hommes, il n'avait toujours aucune autorité. Ensuite, alors on dit qu'il est furieux dans le texte, vous avez vu juste avant qu'il était furieux qu'un Amalécite avait osé proclamer, avoir tué Saül et ramener sa couronne et ramener son armure ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce qu'il fait David ? Il est écœuré, il tue l'Amalécite parce qu'il avait l'autorité. Mais il ne fait pas de quartier quand il avait l'autorité. Et quand il savait que cet homme mentait, et en plus, vous vous souvenez, on l'avait signalé, c'était un Amalécite qui proclamait ça. Ça veut dire qu'il aurait été tué par les gens que Saül avait laissé vivre quand Dieu lui avait dit de les supprimer. Et j'ai pensé à ça, ce qu'on tolère dans notre vie peut finir par nous tuer. Débarrassons-nous de nos ennemis. Nos ennemis, je parle à nous, pas les humains. Hein. Nos ennemis intérieurs. Alors, il y a aussi un autre point qu'André a soulevé aussi, on en a discuté longtemps, parce que c'était une préoccupation pour moi cette semaine. David, en tant que Jésus, en tant que type de Jésus, il faut aussi le voir comme ça. Dans la Bible, il est souvent présenté comme un type de Jésus. D'ailleurs, regardez dans le Nouveau Testament combien de fois Jésus, fils de David. Ah ah, intéressant. Et David est présenté comme un type de Jésus. Et vous savez comment faisait Jésus ? Il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Et si, dans son obéissance à Dieu, il n'avait pas vu Dieu agir, David ne faisait rien. Il était en cette dynamique. Ce qui explique aussi qu'il n'a pas bougé. Parce qu'il était plus à l'écoute de Dieu qu'à l'écoute des hommes. Surtout ses copains hein, qui lui disaient « Vas-y David, fonce !» Surtout Joab. Vous allez voir, Joab est quand même un personnage. Ouh, ouh, ouh. Je l'aimais bien, mais là je me pose des questions. En regardant de plus près. David ne se réjouit absolument pas de la mort de Jonathan et Saül. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Samuel avait pleuré sur Saül quand Dieu avait dit « c'est fini ». David, pour lui, c'était un échec militaire contre les ennemis du peuple de Dieu. Ce n'est pas agréable. C'était un échec spirituel. Ça veut dire que l'ennemi avait eu le dessus sur Saül. Ça, ça ne lui a pas fait plaisir non plus. Et un échec relationnel, parce que du coup, il perd son meilleur ami. Donc, on comprend son désespoir. Parce qu'il y en a qui peuvent dire « oh, mais c'est de l'hypocrisie ». Non, non. Tous vivent trois échecs comme ça, un échec militaire, un échec spirituel, un échec relationnel. Non, ça faisait beaucoup quand même. Et en tant que type de Christ, il faut penser aussi à quel point Jésus a été poursuivi par les hommes religieux de son temps. Et j'ai lu un excellent article de Daniel Arnold, encore lui, qui explique à quel point, on l'avait déjà vu d'ailleurs nous, à quel point Saül était religieux. il était rituel. Ce qui l'intéressait, c'était faire un sacrifice avant la bataille, avoir la bénédiction du prophète. Voilà, reste avec moi, montre au peuple que tu es à côté de moi, etc. Enfin, vous vous souvenez de tout ce qu'on avait vu dans les histoires précédentes. Et du coup, on voit un homme qui est très attaché au rite, à l'extérieur, au visible, alors que David est attaché au cœur. Et Jésus, toute sa vie, a eu des problèmes avec les hommes religieux. Les hommes superstitieux, attachés au rite extérieur, au sabbat, etc. Plus qu'à la relation personnelle avec Dieu et à l'obéissance à Dieu. Et David, on retrouve un petit peu la même chose chez Jésus. Hein. Jésus a toujours eu des problèmes avec les pharisiens, les sadducéens, les hommes de son temps qui faisaient attention à l'extérieur et qui méprisaient les autres en plus, parce qu'ils se sentaient supérieurs, parce qu'ils faisaient tout bien, parce qu'ils faisaient les gestes religieux qu'il fallait, au lieu de reconnaître leurs fautes. Et vous vous souvenez cette prière extraordinaire que Jésus relève entre le publicain qui est là, oh là là, je suis un homme pécheur, qui est là dans son petit coin à prier Dieu et à reconnaître ses fautes, et puis le pharisien qui est au coin de la rue et qui, voilà, je te loue de ce que je ne suis pas, ceci, cela. Donc attention, en tant qu'évangélique, on n'est jamais à l'abri de cette foi un peu religieuse. Notre foi n'est pas un décor. Ça, c'est quelque chose aussi qui me touche. Notre foi, ce n'est pas un décor. Ce n'est pas un décor pour notre vie. C'est le fondement de notre vie. C'est la vie. La vie en Jésus-Christ. Et arrêtons de voir notre foi comme quelque chose à part de notre vie. Le diable est malin pour dire, voilà, il y a des gens qui ont des hobbies, il y en a, c'est l'équitation, d'autres c'est ci, d'autres c'est ça, puis vous, bah, c'est l'église, oui. Non, non, non. Attention au raisonnement humain qui s'infiltre dans nos cœurs à tous, à un moment ou à l'autre. Hein, ça fait longtemps que je fais cette activité. Donc, bon, faut peut-être temps d'arrêter puis de changer. Imaginez David s'il avait dit, ça fait longtemps là que je suis le roi en puissance, je suis tout le temps poursuivi. 10 ans, le pauvre, 10 ans de malheur, tout ça pour avoir tué Goliath, et bon, c'est beaucoup quoi. Mais il n'a pas abandonné son appel, il n'a pas abandonné son appel. Notre vie repose sur Dieu, nous a appelés chacun, pas forcément à bouleverser le monde entier, mais à le suivre, à marcher avec lui. On a tous un appel, et c'est à cause de cet appel qu'on vit. C'est à cause de cet appel qu'on peut tenir le choc. C'est à cause de cet appel qu'on peut rester fidèle. On se rappelle, mais Seigneur, tu m'as appelé. Mais moi, franchement, je crois que j'aurais été la grand-mère de David. Je lui aurais dit, écoute, mon petit gars, ça fait 10 ans que t'en baves. Mais arrête, quoi. Arrête. Tu vois bien que t'avances pas. L'autre, il pense qu'à te tuer. Arrête. Si Dieu vraiment t'avait appelé, si l'onction, si Samuel... C'était vrai ce qu'il a dit. Il aplanirait tes sentiers quand même, il t'ouvrirait la voie. Ça fait 10 ans que t'es poursuivi, ça fait 10 ans que t'en baves. Tu risques ta peau sans arrêt, puis tes pauvres 600 hommes qui sont avec toi. Regarde tous qui vivent et tous ces gens que t'entraînes derrière toi. Franchement, je l'aurais dit, parce que c'est un raisonnement humain. Parce que c'est mon cœur humain, c'est ma tête, c'est mon intelligence, c'est ma logique. Arrête David, va mon petit, fais autre chose. Fais autre chose. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de passionnant pour toi quelque part ailleurs. Mais oui, c'est ce que j'aurais dit, franchement. 10 ans, vous croyez que vous aurez tenu le choc pour conseiller quelqu'un à continuer après 10 ans de malheur? On est logique quand même, on a une raison, il faut s'en servir. Eh oui, mais il est resté fidèle à son appel. J'aurais pas été une bonne grand-mère, pas du tout. J'aurais consulté, j'aurais conseillé d'abandonner. Mais David va consulter Dieu et c'est ça qui nous touche. Chapitre 2, premier verset. Après cela, voici ce qui arriva. Donc on a commenté l'après cela, c'était un peu long. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en vais respecter les horaires au maximum. J'ai pris des bonnes résolutions. Et on va prier. « Seigneur, pardon, pour toutes les fois où on laisse notre raison, notre intellect, notre logique prendre le dessus sur ta parole. Aide-nous à croire que ta parole est la vérité. Aide-nous, Seigneur, à y croire suffisamment pour lui obéir, comme comme cette sœur qui nous a parlé mercredi, pour lui obéir, même si ça fait mal. Seigneur, oui, on a envie de te dire, change nos cœurs, même si ça fait mal. Nous voulons nous approcher de toi et revenir vers toi, parce que ta promesse est là. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. David a tenu bon, parce qu'il savait que tu l'avais appelé. Et nous voulons tenir bon parce que tu nous as appelés chacun. Malgré nos défauts, malgré tout ce qui foire dans nos vies, malgré tout ce qui n'est pas juste, tu nous aimes tous, sans exception. Tu as aimé Saül jusqu'au bout. Tu as aimé David jusqu'au bout et tu nous aimeras jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ton amour et ta parole. Viens à notre aide. Dans cette civilisation dans laquelle on vit, ça devient tellement difficile de nous laisser interpeller par ta parole. Viens à notre secours, Seigneur. Amen.